faire passer le code de la route, en fait, tout est automatisé, c'est un boîtier, etc. Il suffit de... En fait, c'est de la surveillance, c'est de la surveillance d'un candidat. Donc je crois qu'il y a un contrat qui a été passé là-dessus. Et bon, voilà, ça a eu le sentiment que ça avait quand même un petit peu de mal à démarrer. Or, ce serait particulièrement utile dans, j'allais dire, dans les secteurs un peu à l'écart.
Nous sommes le premier opérateur du marché. Hein. Examen théorique du permis de conduire, la Poste est le premier opérateur du marché.
Si, je vous le dis.
Donc ça a du mal à démarrer. Ça a eu du mal à démarrer. Ouais.
Le premier dans le temps, effectivement. Mais effectivement, on a un
certain nombre d'opérateurs. En volume. Le premier en part de marché.
Les deux sociétés,
SGS, principale concurrence, c'est SGS.
Voilà. Non, mais effectivement. Voilà.
Et donc,
alors,
au début,
les courbes
se sont croisées. Ouais. SGS a été au lancement. SGS a eu plus de réactivité que la Poste. La Poste, c'est un grand paquebot. Bon, convaincre les postiers qu'il fallait qu'ils fassent passer le permis de conduire, ça n'a pas été de la tarte. Quoi. Bon. Mais nous y sommes parvenus. Et c'est ça qui est bien avec la Poste. C'est que quand il faut du temps pour que le dispositif monte en puissance, mais une fois qu'il est monté en puissance, il est très efficace.
Oui, mais
donc,
nous sommes aujourd'hui
le premier opérateur.
Mais ce n'est pas sur ce sujet que je voulais intervenir. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez proposé deux types de réponses.
Oui.
Un type de réponse, effectivement, avec des centres d'examen. Et celui-là, effectivement, il a bien démarré. Sauf qu'il a démarré où ? Je prends les exemples de la Seine-Maritime, il a démarré à Rouen et au Havre. Et nous avons aujourd'hui, quand je suis parti il y a 2 mois, on avait à Rouen et au Havre, entre SGS et la Poste, une offre pléthorique, c'est-à-dire qui était largement supérieure aux besoins. Par contre, n'importe quoi, à Pavie, à Yvetot, etc., on a toujours un problème, effectivement, de gens qui sont obligés de se déplacer sur Rouen ou sur le Havre. Et donc, on a finalement facialement l'impression qu'on a une offre qui est supérieure à la demande, sauf qu'on a un problème de territorialisation de cette offre au niveau du bureau de poste. En tout cas, le deuxième volet était une possibilité de faire des examens quasi individuels, c'est-à-dire avoir dans une pièce d'un bureau de poste une personne qui vient de 9h à 9h30, une autre qui vient de 9h30 à 10h, etc. Et c'est ce sujet-là qui a eu un petit peu de mal.
Je peux vous répondre sur ce point-là. Si vous voulez, quand nous sommes intéressés à cette question, notre objectif, tout comme celui de SGS, ça a été de monter en puissance le plus rapidement possible. Donc on aurait pu imaginer, et SGS était tout à fait d'accord avec cette proposition, on aurait pu imaginer que SGS se réserve les métropoles, en clair là où c'est rentable, et puis que la Poste soit présente dans tous les territoires ruraux, là où c'est pas rentable, et là où personne ne va. Donc ça, si vous voulez, ce deal on connaît, ça fait partie de notre histoire, donc on a dit, bon, ok. Donc premier temps, affirmer notre capacité à être présent sur ce marché. Gagner la bataille de ce marché. Nous l'avons gagné. Et nous l'avons gagné, vous avez tout à fait raison, nous l'avons gagné parce que nous avons organisé des salles d'examen dans des villes, Rouen, Le Havre, mais aussi dans des villes moyennes. Aujourd'hui, ce que nous avons devant nous, et nous en sommes parfaitement conscients, c'est maintenant, fort de cette position-là, fort du fait qu'aujourd'hui, c'est entré dans la tête des postiers, c'est entré dans la tête des Français qu'on peut passer le permis de conduire à la Poste, fort de cela, de jouer sur notre capacité de projection et de compléter notre offre de salles collectives avec des petites salles individuelles et dans des bureaux de poste. Il y a des bureaux de poste où des salles individuelles, des petites salles sont installées. Je peux vous dire que lorsqu'elles sont installées, elles sont extrêmement prisées. Parce que les personnes... Alors, il y a la question du déplacement, mais il y a aussi les questions de contexte de l'examen. C'est-à-dire que les personnes passent l'examen dans un bureau, elles sont toutes seules, elles ont moins de stress, elles sont bien accueillies par les postiers, elles sont en confiance, etc. Donc, ça, c'est aujourd'hui ce que nous avons devant nous.
Et donc, le deuxième sujet sur lequel, effectivement, on a sans doute des choses à faire ensemble, vous l'avez dit, les postiers, c'est sans doute ceux qui rentrent le plus dans les maisons. Et nous avons, alors là ça me concerne également dans mon nouveau boulot, la problématique de ce qu'on appelle de la lutte contre l'habitat indigne et qu'un impossible pourrait être effectivement les premiers, moyennant une formation, je dirais, du regard d'une certaine manière, de la sensibilité à quelques indices, pourraient effectivement être une bonne remontée en la matière. Et donc je pense qu'il y a des choses à faire sur ce sujet.
Oui, Thierry Vanroy, je suis directeur adjoint de la DET de la Lozère, donc, département rural, s'il en est. Moi, j'avais une question, on voit qu'il y a un enjeu de transformation du groupe et de l'entreprise. Alors, c'était sur deux volets, donc, on a bien compris la stratégie et ses motivations. Quelle est la stratégie, finalement, de changement d'image vis-à-vis de l'extérieur? Parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de ne pas perdre l'historique et la confiance qu'on a vis-à-vis du groupe La Poste, mais aussi de faire comprendre que s'il se diversifie, c'est normal et ça permet de garantir sa pérennité. Donc, les stratégies de communication par rapport à ce changement d'image. Et après, une question plus... par intérêt personnel, en termes de management interne, comment vous orientez justement le management interne, notamment par rapport au recrutement, au profil, sur ce qu'on connaît tous, donc le segment un peu stratégique du cadre de premier niveau qui pilote les unités de production et qui permet justement de mieux orienter l'agent lui-même, puisque en bout de course, c'est quand même l'agent qui concrétise les ambitions du groupe. Voilà. Merci.
Je vais peut-être commencer par la seconde et puis on parlera de l'image. Le management interne et les politiques de recrutement, je vais vous répondre de façon très directe. Le sujet de La Poste, c'est pas de recruter. Hein. Voilà. Quand vous avez une perspective de chiffre d'affaires qui décroît de 500 millions d'euros tous les ans, le recrutement, c'est pas trop le sujet. Quoi. Le sujet, c'est plutôt comment on organise la décroissance des effectifs. On organise, on profite des départs à la retraite, etc., etc. À bas bruit, évidemment. Bon. Et donc, le principal sujet en termes de management, c'est la formation. Et aujourd'hui, les sommes consacrées à l'effort de formation au sein du groupe La Poste sont considérables. 80% en une année, 80%, l'objectif fixé au manager, au cadre stratégique, c'est 80% des postiers formés. Bon. Et évidemment, nous réussirons à transformer le modèle de La Poste si nous réussissons à transformer également les postiers. Et on se rend compte, parce que vous savez, quand on va à la rencontre des facteurs, le président Val, tous les 15 jours, fait un déplacement dans un département et je l'accompagne. Et systématiquement, il y a un passage en PDC, en plateforme de distribution, de préparation de la distribution du courrier. On va à la rencontre des facteurs. Bon, alors vous avez, évidemment, dans la population de facteurs, vous avez tel ou tel qui dit « Monsieur le Président, c'est pas vrai, le courrier diminue pas. » En tout cas, moi, ma sacoche, elle est toujours aussi pleine. Oui, forcément, parce que la tournée s'est allongée. Bon. Mais ça n'empêche qu'il y a moins de tournées. Donc, il y a quand même une baisse du courrier. Mais il y a la majorité des facteurs. C'est même une question très angoissante. C'est-à-dire que le facteur, il dit, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que le facteur, il se rend bien compte que... Bon. Donc, si vous voulez, cette compréhension des enjeux, elle est, on peut le dire, elle est partagée par les postiers. Et la question, mais c'est vrai dans notre entreprise, mais je pense que c'est vrai dans toutes les entreprises ici, hein, c'est la question d'embarquer avec nous aussi le management intermédiaire et que le management intermédiaire s'approprie ces enjeux de transformation et fasse en sorte que, avec leur management, ils puissent embarquer les postiers dans cet effort. Ça, je ne vous le cache pas, ce n'est pas très facile, mais la réponse qui, pour nous, est absolument stratégique, c'est la formation, c'est investir dans la formation. En termes d'image, nous, ce que nous disons, c'est que La Poste va devenir, avec toute sa diversification, la plus grande entreprise de proximité humaine pour tous, partout, tous les jours. C'est ça notre... Et évidemment, c'est d'autant plus, d'une certaine manière, facile à le dire du point de vue de la poste, parce qu'on le sait, ce sont des valeurs auxquelles les postiers sont extrêmement attachés. Pour tous, les postiers, pour eux, c'est même une de leurs raisons d'être. Comme d'ailleurs, dans la fonction publique ou la fonction territoriale, des fonctionnaires qui sont conscients du fait qu'ils sont là pour tout le monde. Et pour tout le monde, évidemment, ça veut dire pour les plus défavorisés. Hein. Parce que c'est plutôt cette clientèle-là qui vient dans nos bureaux de poste. Hein. Parce que ceux qui sont capables de faire leurs démarches administratives, les virements bancaires sur Internet, etc., ben voilà, ils ne viennent plus dans les bureaux de poste. Ceux qui viennent, c'est ceux qui sont encore en difficulté avec ça. Bon. Pour tous, ça a du sens. Partout. Ça, les postiers, ils savent que la force de la poste, c'est précisément notre capacité de projection territoriale. Et c'est intéressant. Par exemple, en Allemagne, il n'y a plus un seul bureau de poste en Allemagne. C'est fini. Il n'y a plus de bureau de poste en Allemagne. Il n'y a plus que des corners postaux installés chez les commerçants. Nous faisons le pari et nous disons aux maires et aux associations des maires, nous resterons présents sur les territoires. Nous resterons présents sur les territoires, mais nous n'avons pas les moyens de rester tout seul. Donc il faut qu'on trouve, avec vous, les moyens de mutualiser notre présence. Et ça, les postiers, partout, c'est quelque chose qui a du sens pour eux. Et puis tous les jours, alors pour l'instant c'était 6 jours sur 7. Bon, la question du dimanche. La question du dimanche, on est en train d'essayer de dire, c'est 7 jours sur 7. Bon, en dehors de la question, laissons la question du dimanche, qui a un côté un peu symbolique, ça, mais... Il y a des postes, par exemple la poste italienne, en Scandinavie, la poste suédoise, commence à négocier la capacité de ne passer plus qu'un jour sur deux. Nous disons très clairement que ce serait une erreur stratégique. Ce qui fait la force de la poste, c'est notre capacité de projection territoriale, mais notre capacité quotidienne. Si on s'ouvre au portage des repas à domicile, il ne faut pas qu'on passe un jour sur deux, hein. Ça va être un petit peu difficile. Bon, donc, vous voyez, donc, ces valeurs-là, elles fédèrent les postiers. Pas unanimité sur les choix qui sont faits, mais voilà, là on... Et donc, c'est cette image qu'il faut qu'on préserve. C'est cette image qu'il faut qu'on conforte. Et la communication qui est la nôtre, elle essaye justement de prendre appui sur cette image qui est une image forte. La poste, tiers de confiance, présent auprès... Français.
Oui, bonjour, Mathias Cadeau, je dirige un centre de ressources de la politique de la ville. Vous avez déjà un peu répondu à la question, parce que c'est vrai que moi je fréquente encore les bureaux de poste de temps en temps, et c'est vrai que ce sentiment de voir que ce sont souvent les personnes les plus fragiles qui sont au guichet pour opérer leurs opérations bancaires, c'est une réalité, et c'est une réalité des quartiers populaires. Je voulais justement savoir si vous aviez une stratégie particulière à l'égard de ces quartiers. On sait bien que de temps en temps, ça ferme, dans certaines agences fermes. Vous dites, on cherche à retrouver des endroits, mais encore faut-il qu'il y ait dans ces quartiers des fois un autre espace partagé pour accueillir ces services-là. Je voulais savoir si vous aviez dans votre stratégie une réflexion particulière sur ces territoires. Merci.
Je vais vous répondre. En fait, le contrat de présence postale qu'on signe avec l'État... Alors l'État, c'est notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie version industrie, le ministère de la cohésion des territoires, ça c'est l'État, et puis donc avec l'Association des maires de France. Ce contrat, il précise les règles d'intervention de la Poste, les règles de concertation avec les élus et les règles de financement de ces transformations. S'agissant de la concertation avec les élus, sujet extrêmement sensible, donc il y a une règle qui est très claire, c'est que l'accord du maire est nécessaire pour toute transformation qui se situe dans des communes dites rurales au sens INSEE, donc les petites communes, les communes de moins de 2000 habitants, dans les quartiers politiques de la ville et dans les territoires d'outre-mer. Ça, c'est le périmètre de la mission d'aménagement du territoire telle qu'elle a été définie par l'État et assignée à la Poste. Donc là, la transformation d'un bureau de poste en QPV, première règle, elle est soumise à l'accord formel du maire. En clair, si le maire n'est pas d'accord pour qu'elle se transforme, pour que le bureau se transforme, alors la transformation ne se fait pas. Ça ne veut pas dire pour autant que on essaye d'adapter les horaires d'ouverture à la réalité de la fréquentation, mais en tout cas, on ne peut pas transformer un bureau de poste sans l'accord du maire. On a étendu l'accord du maire à deux autres catégories de communes, aux communes où il n'y a plus qu'un seul bureau de poste, où la transformation concernerait le dernier, donc là, accord formel du maire, et puis une autre catégorie, plus symbolique, mais qui pour nous avait du sens, ce sont les communes nouvelles. Bon. Donc s'agissant des quartiers politiques de la ville, une fois qu'on a dit qu'il fallait, pour transformer le bureau de poste, l'accord formel du maire, on n'a pas tout dit. Nous, notre priorité, c'est à la fois de pouvoir combiner ce que vous venez de dire, cette présence auprès d'un public qui a besoin des services postaux, et puis éventuellement également l'élargissement de notre offre de services dans ces bureaux. Et nous avons conduit des expérimentations extrêmement intéressantes où nous avons, autour d'un bureau de poste existant, réalisé une maison de service au public dans un quartier politique de la ville où on a accueilli dans le bureau de poste, on a accueilli d'autres services publics qui permet d'avoir un point unique d'entrée au service administratif. Ça, on a pu aussi dans certains quartiers connaître l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le maire a accepté que la poste vienne s'installer sous forme d'un corner postal ou d'une agence postale communale dans un relais service qui existait sur le quartier. Donc ouais, voilà, c'est-à-dire que on est présent, on a des ressources pour financer les transformations lorsqu'il y a des transformations, puisqu'on peut mobiliser ce qu'on appelle le fonds de péréquation, aménagement du territoire, donc ce sont des ressources postales, et on cherche là aussi à mutualiser pour mieux répondre aux demandes de nos usagers.
Xavier, vous n'avez pas répondu à une question, ce sera la dernière une fois de plus.
EDF.
Alors, EDF, certes, mais petit-fils n'est rien, petit-fils de facteur.
Ce qui n'est pas mon cas, et d'ailleurs, on me le reproche.
Quand vous évoquez tous les nouveaux services, moi, ça me rappelle ce que m'a raconté mon grand-père, en me disant qu'il était allé porter les médicaments dans la zone rurale qu'il desservait, et quand ensuite, devenu collaborateur de député à l'Assemblée, j'ai accueilli les gens du canton, et qu'on m'a demandé qui j'étais, et que j'ai dit que j'étais le petit-fils du facteur, on m'a parlé de mon père, de mes oncles, parce que les gens qui étaient là connaissaient tous le facteur, et connaissaient tous la famille du facteur. Donc un attachement particulier des Français à la poste et à ses personnels, qui rend d'autant plus difficiles les adaptations territoriales, parce qu'elles se sont senties comme un abandon du territoire, comme une distanciation dans la relation. D'où les difficultés pour les élus de vouloir accepter que la poste s'en aille ou qu'elle se transforme, parce que c'est vu comme une diminution du service rendu finalement à la population. J'ai continué en répondant à votre question, est-ce que vous allez souvent dans un bureau de poste? J'y vais souvent, et malheureusement, pas toujours avec plaisir. C'est-à-dire que j'y vais parce que le colis qu'on devait me délivrer ne l'a pas été. Alors, quand j'ai de la chance, j'ai le petit papillon qui me dit que le facteur est passé. Quand je n'ai pas de chance, j'ai juste l'expéditeur qui me dit « non, il faudrait peut-être que tu ailles chercher ce que je t'ai envoyé ». Ça, c'est aussi une baisse de qualité perçue sur l'activité traditionnelle courrier et colis. Alors, peut-être qu'en zone dense, avec les difficultés de circulation que vous évoquiez du fait de l'intensification finalement et du sous-emploi des différents véhicules de livraison de toutes les compagnies, on est plus confronté à ce phénomène-là qu'ailleurs. Mais
Je pense aussi, qu'est-ce que vous faites pour maintenir la qualité du service perçu en la matière? Et puis sur le volet banque postale, on voit bien qu'il doit croître. Quel est l'impact de la création de ces nouveaux opérateurs qui délivrent des capacités de paiement, de gestion de compte accessibles dans les tabacs sur l'activité de la banque postale qui, comme ça a été dit, a longtemps été la banque de ceux qui avaient le moins.
Alors, merci pour le petit clin d'œil, grands-parents, vous avez tout à fait raison. On a retrouvé récemment, là, on a un comité de l'histoire à la Poste, on a retrouvé une initiative prise en 1926, la Poste Automobile Rurale, qui proposait d'équiper les facteurs d'omnibus, enfin de mini-cars, qui permettaient, ils faisaient leur tournée, ce qui leur permettait de transporter des personnes, mais aussi de livrer du pain, de livrer des bidons de lait, de livrer des œufs. Et alors ce qui était intéressant, c'est que ce service, contrairement au mythe, ça fait partie des mythes, n'était pas gratuit, et on le payait en timbre, parce que le timbre était une monnaie fiduciaire. Et c'était extraordinaire, vous aviez, si vous commandiez un bidon de lait, et qui vous était livré par l'omnibus de la Poste Automobile Rurale, eh bien, vous aviez à payer en timbre l'équivalent d'un affranchissement d'un colis, quoi. Bon, voilà. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler l'inscription de la Poste dans notre histoire. Et c'est pour ça que, quand on touche à la Poste, on touche au cœur des Français. Et moi, je le dis souvent, et c'est un point... Oui, je dis souvent cela parce que je crois que c'est absolument essentiel que les postiers en soient tous conscients. C'est que la Poste appartient aux Français, au propre et au figuré. Au propre, parce que vous le savez, c'est une entreprise qui est détenue à 100%, enfin 75% par l'État et 25% par la Caisse des dépôts. Moi j'ai encore, mais ça c'est une information préfectorale, j'ai encore la faiblesse de penser que la Caisse des dépôts appartient à l'État, enfin relève de l'État, enfin ça c'est contestable. Enfin bon, 75% État, 25% CDC, donc au propre, la Poste appartient à l'État. Et d'ailleurs la Poste verse des dividendes à ses actionnaires, c'est bien normal. Et puis au figuré, parce que la Poste, comme vous l'avez dit, elle appartient au cœur des Français, et tout ce qui concerne la Poste concerne tous les Français. Sur la qualité de service, l'exemple que vous donnez, on en a tous. Moi-même, j'ai eu cet exemple-là en début de semaine. Là. Bon, c'est assez agaçant. Voilà. Ça arrive. La qualité de service, pour nous, c'est un enjeu absolument majeur. Parce que quand on va vers les élus, quand on va vers les acteurs économiques, qu'on leur explique la nécessité de transformer le modèle de la Poste, les élus nous disent « Attendez les gars, là, vous êtes gentils. Hein. Avant de vous occuper de veiller sur mes parents, là, distribuez le courrier correctement, faites en sorte que mon courrier que j'ai posté avec un tarif prioritaire, il n'arrive pas 3 jours après, faites en sorte que le colis, que le facteur il sonne à la porte avant de partir, etc., etc. » Donc on nous renvoie forcément. Donc la qualité de service, si vous voulez, c'est d'abord une exigence qu'on doit à nos clients, évidemment. Et c'est aussi un enjeu stratégique, parce que si on ne gagne pas la bataille de la qualité de service, on ne peut pas porter le message sur la transformation. Parce qu'on nous renvoie toujours à cette image. Bon. Alors, évidemment, des exemples comme vous le donnez, il y en a. Et, alors,
on a pour EDF aussi.
Oui, il peut y en avoir. Mais j'ai pas utilisé cet argument-là, en tout cas, même si je l'ai pensé un petit peu, mais je l'ai pas utilisé. Non, la solution, si vous voulez, la solution, elle viendra aussi de la technologie. On est en train de mettre au point un programme qui s'appelle Predict, qui est aujourd'hui porté par notre filiale DPD en Grande-Bretagne. C'est la capacité que nous aurons à envoyer un SMS au destinataire du colis en lui fixant un rendez-vous dans un quart d'heure, dans une plage horaire d'un quart d'heure. Ce qui, entre nous soit dit, vous l'imaginez, pose un redoutable problème de logistique. Parce que vous pouvez donner un rendez-vous d'un quart d'heure à un client là, à un client là, à un client là, mais après, c'est juste impossible d'organiser une tournée en donnant des carreaux. Donc c'est un gros problème logistique, mais nous nous y attaquons, et nous sommes absolument convaincus, en tout cas dans l'urbain dense, que nous serons en capacité de pouvoir proposer ce produit. Ce qui permettra d'atténuer l'agacement bien naturel du destinataire du colis. Sur la banque postale, là aussi, on revient sur notre problématique ETG. Vous savez que la banque postale a une mission de service public qui s'appelle l'accessibilité bancaire. Là encore, il n'y a aucune situation de monopole. Donc il y a eu, cette année, un tour de table, l'État a relancé une consultation sur quelles étaient les banques qui étaient prêtes à porter la mission d'accessibilité bancaire. Il n'y a que la banque postale qui a levé le doigt. Nous avons été les seuls à le faire. Et nous sommes aujourd'hui les seuls à le porter. Donc ça veut dire que c'est une mission de service public. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'elle est très partiellement compensée par l'État, en tout cas pas complètement. Hein, et que, évidemment, elle nous impose une responsabilité particulière, parce qu'il faut qu'on soit présent auprès de cette population qui est en difficulté d'accessibilité bancaire. Donc nous faisons en sorte d'imaginer des moyens de paiement qui puissent être au maximum automatisés, parce que d'une certaine manière, y compris par rapport à l'autonomie de ces personnes, on a quand même tout intérêt à ce qu'elles ne soient pas obligées systématiquement de venir au guichet pour avoir du liquide. Et quand, par exemple, on a un processus qui permet, une personne vient au guichet demander 40 euros en liquide, on lui donne une petite carte qui lui permet un tirage à 40 euros, et on lui dit, vous allez, on l'accompagne à l'automate, et avec cette petite carte, elle a la possibilité de retirer 40 euros. Ça nous permet petit à petit d'accompagner les personnes vers une certaine autonomie, parce que c'est quand même pratique d'aller chercher du liquide dans le DAB, et on peut aller le chercher à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. Donc on sait qu'on a une responsabilité particulière, c'est un sujet qu'on a sur la table, et on essaye là encore d'innover dans les pratiques qu'on peut et dans les services qu'on peut offrir à notre clientèle.